Bonsoir. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo a annoncé la semaine dernière la dissolution de Fibank et sa reprise par Afrilen de Festbank. Deogratias Mutombo explique que les actionnaires de la Fibank n'ont pas été capables ni d'apporter les capitaux frais, ni d'ouvrir le capital social de cette banque malade à d'autres investisseurs. Afrilen reprend ainsi dès ce lundi 12 juin les actifs et passifs propres de la Fibank. Quelle analyse faire de cette situation plus de 6 mois après la dissolution de la BIAC, une des plus grandes banques congolaises? C'est la question du débat et nous en parlons avec Jean-Louis Kayembe, il est directeur général de la Banque centrale du Congo en charge des opérations bancaires et de la politique monétaire. Bonsoir Monsieur Jean-Louis Kayembe.
Bonsoir Monsieur le journaliste.
Papi Maotela, il est analyste économique. Bonsoir Papi Maotela.
Bonsoir Monsieur le journaliste.
Et lui va nous rejoindre, c'est Israël Moutala, il est journaliste et analyste économique et politique. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le gouverneur de la Banque centrale du Congo annonce la dissolution forcée de la Fibank RDC et la reprise des actifs et passifs de cette institution. Le cabinet Elingomo est recruté pour liquider les actifs et passifs que la BCC qualifie de malsains et toxiques. Le gouverneur Deogratias Mutombo ajoute que la banque dissoute est reprise par une autre qui présente des bases solides. Il demande aux clients de s'adresser dès ce lundi à Afrilen Festbank pour toutes les opérations. Un reportage de Daniel Tambinzoni.
C'est depuis 2015 que la Fibank RDC connaît des difficultés d'exploitation. Le 11 décembre de la même année, la Banque centrale du Congo désigne un comité d'administration provisoire avec une double mission, remplacer le conseil d'administration et la direction générale de cette banque d'un côté et de l'autre, explorer les pistes de résolution de la crise. Selon le gouverneur de la Banque centrale, les actionnaires de la Fibank n'ont été capables ni d'apporter les capitaux frais, ni d'ouvrir le capital social de cette banque à d'autres investisseurs. Et cette incapacité a conduit l'autorité monétaire à cette décision.
Le retrait de l'agrément accordé à la Fibank RDC, décision qui emporte la mise en liquidation forcée de cette entité juridique dans sa forme actuelle. D'autre part, la vente à un autre opérateur bancaire de certains actifs et passifs sains de la banque dissoute.
La Fibank dissoute est reprise par Afrilen Festbank RDC. Afrilen reprend dès ce lundi les actifs et passifs propres et devra aussi prendre en charge le réseau commercial de la banque dissoute avec 14 agences dont 7 guichets installés à Kinshasa et 6 autres en province avec un total de plus de 24 000 comptes opérationnels.
Merci Daniel Tambinzoni, Jean-Louis Kayembe. Je rappelle que vous êtes directeur général de la Banque centrale du Congo en charge des opérations bancaires et de la politique monétaire. La Banque centrale du Congo annonce la dissolution forcée de la Fibank. Quelles sont les raisons qui sous-tendent cette dissolution et pourquoi une dissolution forcée?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre question. D'abord, pour répondre à votre question, il faut savoir qu'il y a deux types de dissolution. Il y a le premier type de dissolution, c'est d'une banque ou d'un établissement de crédit, c'est une dissolution volontaire, c'est-à-dire celle qui est décidée par l'Assemblée générale des actionnaires. Et à côté de cette dissolution volontaire, il y a la dissolution forcée, dont il est question ici. C'est en fait la dissolution forcée intervient lorsque la décision de dissoudre la banque vient de la banque centrale ou si cette dissolution vient donc d'une décision, provient d'une décision judiciaire, donc prononcée par un tribunal. Voilà donc les deux types de dissolution qui existent au niveau de la loi bancaire. Alors, quelles sont les raisons qui ont poussé la Banque centrale à arriver à cette décision? C'est en fait, nous venons de le suivre tout à l'heure, c'est que cette banque qui a bien commencé, je crois, c'était en 2008, je crois, il avait bien commencé, bien constitué, elle a obtenu l'agrément de la Banque centrale et Jusqu'en 2012, la banque avait bien évolué et tous les indicateurs étaient au vert. Je parle donc du total bilancaire qui a progressé, ainsi que des volumes de crédits et de dépôts, suite donc à une politique de marketing qui a été mise en place, qui a donc porté des fruits et qui a conduit à une certaine expansion de l'activité de la banque. Mais malheureusement, à partir du mois de mai 2013, la banque a commencé à avoir des difficultés et donc notamment par rapport à la gestion de l'entreprise de cette banque qui a été marquée par des niveaux de charges très élevés par rapport aux produits, ce qui tout naturellement avait commencé à conduire à des pertes cumulées. Et donc cette situation de mauvaise gestion a mis en cause, n'a pas pu garantir la liquidité de la banque, ainsi que et l'a mis également à dure épreuve la solvabilité de la banque à l'égard donc des déposants. Donc c'est à la fois donc des problèmes de liquidité, de solvabilité qui ont eu comme qui ont été observés donc à la suite des problèmes de gestion. Et la première des choses, la Banque centrale en tant qu'autorité de régulation et de contrôle, au travers des contrôles qui sont effectués sur place, ainsi que sur pièce, donc des contrôles permanents, il y a des injonctions qui ont été faites à la banque pour qu'elle puisse s'ajuster, opérer un certain nombre de redressements, d'aller dans les sens de recommander à la banque la réduction des charges et par la suite, les injonctions sont allées donc dans les sens de demander à la banque, suite aux pertes qui avaient été cumulées, de se recapitaliser. Là, il est donc en clair question de demander aux actionnaires, au regard des pertes qui étaient déjà accumulées, les actionnaires devraient apporter des capitaux frais à concurrence de 8 millions de dollars pour donc faire face, pour répondre à l'exigence du capital minimum.
Monsieur Jean-Louis Caillomé.
Que les pertes avaient déjà érodé une grande partie du capital. Voilà donc les raisons qui ont conduit la banque dans cette situation de crise pratiquement. Et en fait, la décision qui a été annoncée par l'autorité, c'est une décision qui montre un aboutissement heureux de l'option de la résolution des crises populaires.
Monsieur Jean-Louis Caillomé.
Au niveau de cette banque. Donc, il y a été observé au niveau de la banque.
Monsieur Caillomé.
Pour une fois, bonne nouvelle, c'est que une banque est dissoute et elle est reprise par une autre banque.
Voilà, vous l'avez dit.
L'autorité monétaire a dit.
Monsieur Jean-Louis Caillomé.
Liberté d'activité, protection de l'épargne et préservation de la stabilité du système bancaire.
Voilà, vous avez dit que cette banque a bien commencé en 2008 et qu'elle a commencé à connaître des problèmes en 2013. On sait que vers les années, vers 2015, la Banque centrale avait proposé, n'est-ce pas, une solution pour redresser cette banque. Mais aujourd'hui, 4 ans plus tard, la même Banque centrale procède à la dissolution de la FIBank. Est-ce que ce n'est pas l'échec des solutions qui ont été proposées par la Banque centrale?
Alors, je veux vous expliquer clairement en quoi consiste le chemin de résolution de la crise qui sévit lorsque une crise sévit dans une banque. Notre chemin, le chemin de la Banque centrale, a consisté d'abord, premièrement, conformément bien sûr à la loi, à mettre en place une mission de représentation provisoire. La mission que nous avons mise en place, déjà en 2012, lorsqu'on a vu les choses commençaient à se dégrader, et avec la mission avait comme objectif d'aider le dirigeant de la banque à redresser la situation de la banque, à ne pas poser des actes qui allaient aggraver la dépréciation de la situation de la banque. Et le focus de cet acte, c'est effectivement des résolutions, c'était qu'on finisse que les actionnaires devraient apporter des capitaux frais pour déjà essayer de renforcer les fonds propres qui étaient déjà érodés.
Merci.
Donc, première étape, c'était la représentation provisoire. On a arrêté la dégradation, mais ça n'a pas suffi. Les actionnaires n'ont pas amené des capitaux. On est passé à la deuxième étape. Il fallait mettre en place, là nous sommes déjà en décembre 2015,
on a mis en place une administration provisoire. D'abord, c'était une représentation provisoire, une administration provisoire qui avait comme tâche de mettre en place des pistes de résolution de la crise. Et il y avait un plan de redressement, et l'acte principal de ce plan de redressement, c'était que les actionnaires devaient apporter 8 millions. Et pendant tout ce temps, nous, la Banque centrale a attendu que les actionnaires eux-mêmes apportent le 8 millions, ou soit qu'ils puissent ouvrir le capital pour permettre à d'autres actionnaires d'entrer dans le capital.
Merci, monsieur Jean-Louis Kayembe. On va y revenir. On a compris que les problèmes étaient liés à la gestion des actionnaires. Papi Maotela, vous êtes analyste économique. Et après avoir suivi les explications de monsieur Jean-Louis Kayembe, vous pensez que la solution appropriée à la crise qui prévalait à la FIBank, c'était sa dissolution forcée, ou il fallait proposer une autre solution?
Normalement, je pense que la dissolution forcée, elle est légale. La Banque centrale, sur base de la loi bancaire, est autorisée de pouvoir dissoudre une banque sur cause de mésgestion. Mais la question que je suis en train de me poser aussi, est-ce que la Banque centrale n'a pas pris la décision à la va-vite sans toutefois s'interroger par rapport à ses propres politiques? Parce que normalement, selon la loi bancaire, la Banque centrale a des instruments de contrôle et de supervision. Si la Banque centrale, après des audits, a remarqué que le fonds propre de cette banque était supérieur à ses capitaux, je pense qu'il y avait déjà des cas de mésgestion qui constituent de crimes par rapport à la loi bancaire. Qu'est-ce que la Banque centrale a fait? Comment la Banque centrale? Pour moi, j'estime que la Banque centrale a été surprise. Donc la Banque centrale a failli à sa mission de contrôle et supervision de banque. Et la question aujourd'hui que je me suis en train de me poser, la politique d'agrément aujourd'hui qu'applique la Banque centrale, est-ce que c'est une politique adéquate? Ou soit on est en train de donner des agréments à des banques qui vont disparaître après 3-4 ans, parce que si je sais de...
Et donc là, vous faites allusion à la FIBank qui a été agréée en 2008,
en
et
2008,
déjà là aujourd'hui en 2017.
Je peux pas comprendre une banque centrale qui a donné des agréments à une banque et à moins de 7 ans, cette banque va disparaître. Soit la banque centrale n'avait pas bien analysé les dossiers de la FIBank, et aujourd'hui nous sommes arrivés à une situation où la politique monétaire installée par la Banque centrale ne permet pas à ces entreprises de pouvoir évoluer. Si aujourd'hui, que la Banque centrale, si j'ai entendu le monsieur Jean-Louis Kayembe qui disait que depuis 2013, qu'ils avaient déjà identifié de cas de mésgestion, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Pourquoi ils ont attendu 4 ans pour prendre cette décision? Alors, en 2013, ils ont remarqué qu'il y a eu des cas de mésgestion, que les fonds propres étaient supérieurs aux capitaux de la banque.
Et en 2015,
ils n'ont rien fait de 2013 à 2015. C'est en 2015 que revient le mois de décembre pour prendre une décision de mettre sur pied un conseil d'administration provisoire pour essayer de redresser la banque. Excuse-moi, je me pose la question. La Banque centrale a participé au crime. Pourquoi ils ont attendu 2 ans pour mettre sur pied cette commission de redressement de la FIBank? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point. En décembre 2015, le taux de change à la clôture, le 31 décembre, 937 pour un dollar. Aujourd'hui, ce matin, je regardais, les taux étaient à 1445 pour un dollar. Donc, la monnaie nationale s'est dépréciée de 54%. Il est fort possible que le banquier, plusieurs banques aujourd'hui, qui sont en état de cessation de paiement, qui sont en faillite. Il y a BIAC aujourd'hui à la FIBank. Peut-être qu'il y a que d'autres banques. Et aujourd'hui, la Banque centrale doit nous dire exactement la vérité. Qu'est-ce qui marche? Moi, j'ai une grosse crainte.
Et là, toutes les banques commerciales ne font que subir.
Ne font que subir parce qu'aujourd'hui, ça démontre à suffisance que la politique monétaire établie par la Banque centrale, elle est théorique. Malheureusement, dans ce pays, nous avons que des théories. Nous avons des politiques qui sont théoriques. Il n'y a pas une certaine... c'est un certain pragmatisme, parce qu'on ne peut pas constituer un certain financier sans état civil. Il n'y a pas l'état civil dans ce pays. Je suis en train de poser la question, par quelle magie on peut mettre sur pied un système financier adéquat pour essayer de garantir les épargnes de petits épargnants. Et moi, je me pose la question que la Banque Centrale a participé au crime. Et la décision que la Banque Centrale a prise, c'est une décision à la va-vite pour cacher. Et la loi donne pouvoir à la Banque Centrale de poursuivre les actionnaires et de poursuivre les gestionnaires de la banque. Aujourd'hui, la banque a été dissoute. Qu'est-ce que la banque a fait? Pourquoi les gestionnaires de cette banque-là n'ont pas été poursuivis? Et on doit envoyer leur dossier auprès d'un procureur pour qu'ils soient arrêtés, qu'ils soient jugés, qu'ils soient expliqués pourquoi la banque est arrivée à ce point à être mesurée et que la Banque Centrale a participé au crime.
Papi Mautela, on a connu la BIAC, la MEFRECO, aujourd'hui c'est la FIBANC. Ne peut-on pas craindre un effet de contagion, n'est-ce pas, à tous les systèmes bancaires congolais?
Mais, monsieur le journaliste, c'est simple. Parce que normalement, la RDC, c'est un pays où virtuellement on est des criminels. Virtuellement on est des criminels. Les gens ne respectent absolument rien dans ce pays. Je vais donner deux petits exemples. Deux petits exemples. Le premier exemple, la loi d'échange. Dans ce pays, il est interdit de pouvoir se balader avec 10 000 dollars. Tout doit se passer dans les circuits bancaires. Mais vous et moi, quand on va sur Victoire, on va derrière l'immeuble de la Jicamine. On voit déjà avec plus de 10 000 dollars. C'est des crimes. Qu'est-ce que la banque fait? Et aujourd'hui, pour avoir un bureau de change, vous devez être agréé vous devez avoir un agrément de la Banque Centrale. Au dernier rapport de la Banque Centrale, le dernier rapport 2015 qu'ils ont publié en septembre 2016, on est en 2017, il n'y a pas les rapports 2016. Donc, savoir que la Banque Centrale, c'est une institution d'amateur, excuse-moi.
Et donc, vous voulez dire par là que les problèmes des fonds, c'est plutôt la Banque Centrale et que les banques commerciales ne font que...
Subir.
En fait, les différentes dissolutions ne sont que des effets de cette mauvaise politique de la Banque Centrale.
Bien sûr que oui, parce que la Banque Centrale, excuse-moi, c'est une question d'amateurisme. C'est une question d'amateurisme. Aujourd'hui, parce que la loi de 2002... oblige à la Banque Centrale de pouvoir publier ses états financiers après 3 mois. Donc, ça fait les 31 mars, il doit les publier. Aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà lu les rapports de la Banque Centrale 2016? Avez-vous déjà lu le rapport de la Banque Centrale 2016? Il n'y en a pas. Donc, si on n'a pas ces tableaux de bord, comment on saura exactement quelle est la politique, quelles sont les choses qui sont en train de mener au sein de la Banque Centrale? Aujourd'hui, pour moi, excuse-moi, ces banques-là et ces bus, la mauvaise gestion. Pour moi, je pense que même la Banque Centrale est déjà en faillite.
Merci Israël Moutala, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, analyste économique et politique. Comment vous analysez cette décision de dissoudre la FIBANC?
Moi, je pense que c'est une excellente décision. Pour une fois, je pense que la Banque Centrale a agi en toute responsabilité, a appliqué les règles de supervision telles qu'il fallait les appliquer. Et au finish, il n'y a pas eu de casse. Ça veut dire que l'important ici était de préserver l'épargne des Congolais. Donc je pense que toutes les personnes ou toutes les entreprises qui ont des comptes à la FIBANC ont la garantie d'accéder à leurs comptes comme si de rien n'était. Donc c'était ça, la chose la plus importante, c'était la préservation de l'épargne congolaise.
Vous savez, Israël, sans pour autant vous couper, le même discours avait été utilisé par rapport à la BIAC, hein, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas ça dans les faits, parce que les gens avaient du mal, n'est-ce pas, les déposants avaient du mal à accéder à leurs dépôts.
J'ai été très critique envers le gouvernement sur le dossier BIAC, et tu le sais, mais quand ici, envers la Banque Centrale, mais ici, je pense que c'est deux choses différentes. Ça veut dire que la BIAC a un problème, a des actifs toxiques, a une dette colossale élevée, mais il ne faut pas comparer la BIAC, qui était une grande banque, la troisième, une des plus importantes du pays, à la FIBANC, qui est une banque d'importance moyenne. Et ici,
qui était la dixième sur la liste.
Oui, absolument. Mais ici, vous avez, ça veut dire qu'elle a trouvé un repreneur. Donc la BIAC est dans une situation où elle n'a pas retrouvé de repreneur pour expurger ses actifs toxiques et garantir l'épargne. Mais ici, je pense que ça a été bien fait. Ça veut dire que ici, aucun Congolais ne perdra un centime. Parce que la Afriland First Bank a justement racheter la FIBank. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, justement, c'est justement de la préservation de notre système financier. Ça veut dire que l'effet contagion, la panique, tout ça a été contenu parce que la crise a été bien traitée. Moi, j'étais au courant des difficultés de cette banque depuis 2014. Donc peut-être que la décision depuis 2014, j'ai eu à recevoir dans mon bureau les agents de cette banque qui avaient été licenciés, un licenciement massif, il y en avait au moins une quarantaine qui avaient été licenciés parce que ils exigeaient d'avoir certains droits et avantages qu'on avait justement coupés sans leur aval de manière unilatérale par l'employeur, et ces gens là-bas étaient venus déjà me dire comment est-ce que leur banque était en difficulté.
Oui, est-ce que vous avez suivi Papi Maotela qui estime que le problème des fonds, c'est plutôt la mauvaise gestion de la Banque centrale et qui s'est répercute, n'est-ce pas, sur ces banques, ces différentes banques commerciales?
Non, ici, moi, je pense pas qu'il faut blâmer la Banque centrale parce qu'elle a fait son travail. Vous pouvez, le problème, c'est qu'ici, il y a mégestion. Quand on dit mégestion ne veut pas dire crime. Donc, si vous avez des gens qui
une
gèrent...
Une gestion qui a été entretenue, parce que pendant 3-4 ans, la Banque centrale était restée passive.
Non, ça veut dire que pendant 3-4 ans, la Banque centrale a dit non, attention, là-bas, vous êtes dans le rouge. Et pour que vous redeveniez une banque saine, il faut absolument vous recapitaliser. Et donc, on leur a donné des délais pour se recapitaliser. Mais entre-temps, les gens qui avaient leur compte là-bas ne souffraient pas. Donc, ils étaient déjà... On leur donnait une chance de se recapitaliser. Donc, on leur a donné plusieurs chances. Cette échéance a été plusieurs fois repoussée. Et donc, à un moment, la banque s'est résolue. Elle a constaté que ces gens, les actionnaires, étaient incapables de se récapitaliser. Et donc, on arrive à cette solution qui est de la dissolution forcée. Mais le plus important, c'est ça. Une banque n'est pas là pour, comment dirais-je, dissoudre les banques. On leur donne quand même une chance de continuer, pour autant qu'elles ne sont pas un danger pour tout le système financier. Donc maintenant là, on a senti qu'ils étaient incapables et qu'ils allaient représenter un danger pour le système financier. Et alors là, on les a dissous de manière forcée. Et heureusement, il y avait une solution de rechange déjà, parce que Afriland a récupéré les actifs de Fibank. Et donc, il n'y a pas de casse. Donc, moi, je pense que c'est une solution qui a été... pour moi, en tout cas, ici, il n'y a pas eu de problème. J'ai entendu Papi Maotela parler de prison et tout ça. Non, la mégestion n'est pas seulement le fait des actes infractionnels. Si, par exemple, vous avez, au lieu d'avoir un siège à vous louez un immeuble à $1 million l'an, alors que vous avez... Donc, c'est des actes de faute de gestion qui n'entraîneraient pas, justement, des poursuites à l'encontre des gérants. Donc, des fautes de gestion criminelles, c'est les détournements, voilà. Mais s'il y a des fautes de gestion, toutes les fautes de gestion ne donnent pas droit à des actions pénales.
Vous estimez qu'il n'y a pas de casse, mais vous ne pensez pas que toute cette dissolution, n'est-ce pas, qui devienne récurrente, porte préjudice, n'est-ce pas, à l'image du système bancaire congolais. Bon, vous ne pensez pas que la confiance des clients va être...
Je suis parfaitement d'accord que c'est pas bon. Mais le problème, c'est que on ne peut pas préjuger de la mort d'une entreprise. Une banque, c'est une entreprise. Elle naît dans certaines conditions. Et ici, d'ailleurs, je reprends que la Banque centrale a renforcé les règles macroprudentielles, a renforcé le capital propre et tout ça. C'est pour prévenir de telles choses. Donc, on doit être encore plus regardant sur les règles en matière de supervision, les ratios de liquidité, les ratios XY. D'accord, la banque doit faire son travail. Mais en cas de survenance d'une faillite, la banque doit être en mesure de garantir l'épargne. C'est ça, c'est la Banque centrale qui est la garante de notre épargne et du système financier. Et donc, si une banque meurt et que sa mort n'entraîne pas la perte de l'épargne congolais, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a même de grandes banques dans le monde qui sont mortes. Et donc ici, le rôle de la banque de la banque centrale, c'est de prévenir les morts des banques, les faillites des banques. Et si ces banques, malgré ça, tombent en faillite, que l'épargne de Congolais soit préservée. C'est ça la mission principale de la banque, préserver l'épargne et le système financier congolais.
Est-ce que cette banque centrale joue comme il se doit son rôle?
Donc, sur le dossier, bien que j'avais dit, il y avait des fautes, mais je pense qu'ils ont appris de leurs erreurs, parce que sur le dossier Fibank, je pense que jusque-là, il n'y a pas de problème, parce que Fibank a été reprise par Afriland, et jusque-là, je pense que Afriland, j'ai vu quand même ses états financiers, c'est quand même une banque assez solide, qui va continuer à assurer la continuité de services qu'offrait Fibank à ses déposants.
Merci, Monsieur Jean-Louis Kayembe. Il y a une réflexion à laquelle vous allez réagir. En fait, une question, une série de questions qui sont posées, n'est-ce pas, à vous, qui viennent de Mbandaka.
Alain Varite Batanga, j'appelle à partir de Mbandaka dans la nouvelle convoi de l'Équateur. L'article 200 de l'acte uniforme relative à l'organisation pour l'harmonisation en Afrique et du droit des affaires, OADA en sigle, énumère les causes de dissolution d'une société commerciale que voici. 1. Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. 2. Par la réalisation ou l'extinction de son objet. 3. Par l'annulation du contrat de société. 4. Par la décision des actionneurs. 5. Par la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente à la demande d'un actionnaire pour des motifs fascistes. 6. Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation des biens de la société. À cet éclairage, d'où tire le gouverneur de la Banque centrale du Congo le pouvoir de dissoudre cette société? Dans les cas sous examen, doit-on parler de dissolution de la société ou bien de fusion par absorption ou fusion par création d'une nouvelle société ou encore par la scission?
Oui, Monsieur Jean-Louis Kayembe.
Oui, merci beaucoup pour notre collègue qui a posé la question. Mais je voudrais d'abord revenir sur ce qui a été dit. Je crois que ce qui fait peut-être, qui pose le problème, c'est le mot dissolution. Les gens pensent que, au travers de cette dissolution, il y a perte de dépôt. Je crois que notre ami l'a bien souligné. Il n'y a pas perte de dépôt. C'est une dissolution reprise. Donc, une liquidation transfert. On retire l'agrément à la Fibank pour des raisons que nous avons évoquées et tout ce qui est passif, actif et passif sain, les dépôts et les crédits sains sont transférés à Freeland Bank. Donc, je crois que dans ce pays, je ne sais pas si ma mémoire est bonne, je crois que c'est pour une première fois que dans un schéma de résolution d'une crise bancaire, d'une crise qui se vit au sein d'une banque, qu'on arrive à préserver, comme il se doit, l'épargne du public. Donc ici, je veux bien le souligner, comme notre ami l'a fait, aucun client ne perdra un rond. Donc, tous les déposants ont droit à leurs ressources. Et donc, c'est en fait la mauvaise banque, Fibank, qui a été dissoute et tout ce qu'il y a comme actif passif toxique sera entre les mains liquidateurs qui vont gérer.
Alors, donc, si vous répondez à l'auditeur de Mbandaka,
on ne puisse pas faire peur aux gens ou ramener les gens à ce que l'on a vécu par le passé. Et donc, les cas des banques qui sont tombées en faillite et dans ce cas-là, les gens ont eu à perdre de l'argent. Pour revenir à la question qui a été posée, c'est qu'il y a la loi bancaire, c'est celle qui est en vigueur aujourd'hui, qui régit l'activité de relative, l'activité de contrôle, l'activité bancaire de contrôle et d'établissement de crédit, c'est la loi numéro 002 de 2002, du 2 février 2002. Et donc, relatif à ce qu'on appelle la loi bancaire ou la loi relative à l'activité au contrôle des établissements de crédit. Alors, cette loi stipule dans ses articles de 22 jusqu'à 56, voire même 70, les conditions de dissolution. Et parmi ces conditions de dissolution, il est clairement dit que la Banque centrale, cette loi donne le pouvoir à la Banque centrale de retirer l'agrément qu'elle a accordé à une banque sous une certaine, si certaines conditions sont réunies. Et dans les cas d'espèce, ces conditions étaient réunies, un certain nombre de conditions étaient réunies, raison pour laquelle, conformément à la loi, nous avons retiré l'agrément
à la FIBank, et c'est ce retrait d'agrément qui en fait consacre la liquidation forcée.
Oui, vous l'avez dit, monsieur Jean-Luc Aimé, vous dites que vous avez la Banque centrale a l'autorisation de retirer l'agrément. Vous avez suivi Papi Maotela et qui s'est posé la question sur la politique d'agrément des banques de la Banque centrale à l'endroit des banques commerciales.
D'ailleurs, j'ai rejoint notre ami pour dire lorsque nous avons comme rôle la surveillance de le contrôle de l'activité bancaire, nous le faisons sur deux piliers, une réglementation assez solide pour, qui a comme but d'obtenir la stabilité du système bancaire et la mise sur pied d'une certaine batterie, des normes prudentielles pour que, en tout moment, que les banques puissent être liquides et solvables. Ainsi donc, dans le cadre de la réglementation, nous mettons en place, pour qu'une banque soit agréée, il y a un certain nombre de conditions que la banque doit remplir. La première condition, c'est en fait que la banque doit réunir les montants requis pour constituer le capital minimum. Et pour le moment, le montant est à 10 millions et nous sommes en train de les porter à 30 millions, justement, pour renforcer cette réglementation, pour éviter que, face à aux différents risques que courent les banques, les risques de crédit opérationnel, d'échange et tout autre des risques, que les banques aient suffisamment de fonds propres pour amortir des pertes éventuelles. Donc la réglementation a un certain nombre de conditions, le capital minimum, la qualité même des dirigeants, parce que par le passé, on pouvait nommer des dirigeants qui provenaient de n'importe quel secteur, et même sans expérience, nous avons renforcé il y a deux ou trois ans, la réglementation, les conditions pour l'agrément d'une banque, mais nous avons non seulement exigé les capitales, les ressources, mais également des personnes qui sont dans les secteurs, qui ont œuvré dans les secteurs, qui ont un certain nombre d'expériences. Alors, je reviens à ce qui a été dit, que la Banque centrale n'a pas fait son travail. Je vous disais ici, depuis 2013 à 2015, nous avons mis en place une représentation provisoire.
Monsieur Jean-Luc Aimé, nous allons y revenir. Nous allons y revenir. Nous allons aussi donner la parole aux autres de pouvoir intervenir. Papi Maotela, il y a une réflexion à laquelle vous allez réagir, elle vient des Mweka.
Peter Maboudi, des Mweka. La dissolution des sociétés ou institutions est une situation préoccupante pour une société qui n'a pas une forte liquidité. Ainsi, cette dernière peut être absorbante par celle qui a une capacité d'honorer à ses engagements vis-à-vis des actionnaires. Je constate que cette banque dégage un fonds de roulement négatif. À cet effet, se dissoudre, c'est une situation qui doit être prise en compte par les autorités congolaises et de cette banque en sollicitant des prêts ou la faire une cession auprès des banques pour sauvegarder la vie de l'économie congolaise. La question que je me pose est celle de savoir quel est le rôle des auditeurs internes et externes des institutions congolaises et ou de cette banque, car aucune entreprise ne peut arriver à ce stade de dissolution sans piste de solution ou d'alerte ici de ses auditeurs. Il n'est pas bon de constater de telles situations dans les institutions surtout financières d'un pays.
Papi Maotela.
Merci à Peter Maboudi pour ta question. Je pense que la question elle est très pertinente, c'est ce que je l'ai dit avant. Dissoudre une banque commerciale est de la responsabilité de la banque centrale. C'est légal. Les lois de la République démocratique du Congo donnent pouvoir à la banque centrale de dissoudre une banque commerciale qui est mal gérée ou qui est en faillite. Mais la question que je suis en train de me poser, j'ai dit, la banque centrale a participé au crime. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas identifié ce problème bien avant. Il a dit qu'il a identifié ce problème en 2013 et qu'il a mis au pied
en décembre 2015,
il a mis un comité de gestion pour procéder à redresser la banque. La question que je me pose aujourd'hui, je me dis, le rôle de la banque centrale, ce n'est pas seulement donner des agréments, c'est aussi de superviser et de contrôler le banque. Si le charge de l'entreprise ou la charge de la banque commerciale qui est la FIBank ont été supérieures à ces capitaux, il y a un problème parce que c'est déjà une entorse à la loi bancaire. Comment la banque centrale ne l'a pas bien identifié bien avant? Parce que les commissaires aux comptes qui sont nommés par l'Assemblée générale des actionnaires et qui sont aussi entérinés par la direction de la banque centrale ont pour responsabilité de reporter tout le mouvement de gestion et de partager tout tous les charges financières et de partager les tableaux de bord financiers, tableaux de bord financiers avec la Banque centrale. Et chaque année, les banques commerciales sont obligées, avant le 15 juin, de présenter leurs états financiers. Si, au fur et à mesure que présenter ces états financiers, qui est la Banque centrale, n'a pas pu identifier le problème de médiation bien avant, c'est que nous sommes arrivés à cette situation de dissolution qui est pour moi n'est pas une mauvaise décision, parce que il faut, comme l'a dit Israël Moutala, il faut sauvegarder l'épargne. Mais comment il faut sauvegarder l'épargne? Il faut d'abord identifier les problèmes, quelles sont les causes. Parce que la décision, c'est comme des symptômes. Vous êtes malade et vous avez la gale à la peau et vous allez voir un médecin. Le médecin, au lieu de vous faire des examens, il dit « Oh non, je te donne un tel médicament sans diagnostic. »
Et donc, la Banque centrale risque de proposer une solution qui n'est pas adéquate.
Qui n'est pas adéquate parce qu'il y a eu des problèmes avec Mecreco, il y a eu des problèmes avec la BIAG. Aujourd'hui, il y a des problèmes avec Fibank. Et je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas de problèmes avec les autres banques? Pourquoi pas la Banque centrale aujourd'hui pourrait mettre de missions d'inspection et d'audit dans chacune des banques commerciales pour essayer de voir est-ce qu'ils n'ont pas de problèmes, d'autres problèmes que la BIAC et la Fibank.
Monsieur Papi, vous avez suivi Monsieur Jean-Louis Kayembe qui estime que l'un des mérites, n'est-ce pas, de cette nouvelle expérience, c'est que les dépôts des déposants sont préservés.
C'est ce qu'il a dit, mais c'est pas dans la pratique, excuse-moi. Lorsqu'une banque est liquidée par force, la banque centrale met sur pied un liquidateur, il a mis un liquidateur, et le liquidateur va essayer d'analyser l'actif et les passifs de l'entreprise. Il va dégager est-ce qu'il y a un résultat. S'il y a un résultat négatif, le liquidateur va informer au plus pour se dire les créanciers, les débiteurs de la banque devraient se présenter dans les 60 jours pour se dire ok, j'ai une dette envers la banque ou la banque a une dette envers moi. Alors, et les liquidateurs, chaque mois, a l'obligation de reporter à la banque centrale les rapports, de relever, vérifier de toutes les opérations financières qu'il a fait à l'intérieur de la banque. À l'intérieur de la banque, moi, je suis en train de poser la question. Le 9 juin, la décision a été prise. 3 jours plus tard, une autre banque va répondre la Fibank. Il va la répondre comment? Ses clients qui ont des comptes à la Fibank, comment ils vont s'adresser à Fluent First Bank? Comment ils vont s'adresser? Comment ça va se marcher? Pour moi, la Banque Centrale, le fait qu'il a pris ses décisions, elle était bonne. Il devait laisser la décision au liquidateur de pouvoir lui présenter un rapport pour permettre, parce que lorsque la banque est liquidée, elle est réputée exister pour sa liquidation. Ça ne veut pas dire que la banque a été liquidée.
Merci.
Elle disparaît automatiquement.
Isabelle Moutala, nous allons se prendre pour vous une réflexion à laquelle vous allez réagir. Elle vient de Bounia.
Luc Malembe, depuis Bounia, province de l'Ituri. Les explications fournies par le gouverneur de la BCC sont loin de convaincre lorsqu'on sait que la dissolution de la Fibank intervient après plusieurs autres auparavant. J'ai personnellement de bonnes raisons de penser qu'il y a une motivation politique derrière ce bouleversement quasi généralisé du système bancaire congolais. On dirait que le régime cherche à placer tous les circuits bancaires et financiers entre les mains de ses proches fidèles, en dépossédant ou en écartant tous ceux qui ne sont pas proches au régime.
Israël Moutala.
Merci Luc.
La politique s'invite dans ces débats.
Non, ça c'est un débat technique. Non, je pense pas qu'il y ait des visées politiques par rapport au travail de la Banque centrale du Congo. Non. Ici, non. Je sais que le problème, c'est que les gens ont été traumatisés par la disparition de la banque congolaise, la récente dissolution ou administration forcée. On n'est pas encore à la dissolution. C'est ce que réclament les actionnaires de l'autre côté de la BIAC. Mais jusque là, on est encore sur l'administration provisoire de la BIAC.
Mais il faut rappeler que les actionnaires avaient dissous volontairement la BIAC.
Absolument. Mais bon, il y a un conflit là-bas entre justement les actionnaires de la BIAC
et
la Banque centrale. Ça, c'est notre dossier. Mais je peux vous revenir. Et maintenant, la Fibank. Mais pour une fois, comme je le dis, cette crise se termine de manière heureuse. Ça veut dire que pour une banque qui était déjà en difficulté en 2013 et que aucun Congolais, aucun épargnant, aucune entreprise n'a perdu son dépôt, c'est à souligner.
Est-ce que ça c'est pas au niveau de la théorie? Vous avez suivi Papi Maotela qui se pose la question de savoir comment concrètement les épargnants vont aller s'adresser à...
Concrètement, les épargnants vont s'adresser à Freeland First Bank. Donc ça veut dire tous leurs comptes courants, tous leurs comptes épargne seront désormais ouverts dans les livres de Freeland First Bank. Donc c'est aussi facile que cela. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Donc, ils vont aller retirer leur argent à Freeland First Bank. Donc, il y a eu un repreneur qui est solvable, qui peut justement la récapitaliser à hauteur de 8 millions de dollars. Donc, il a repris tous les actifs. Donc, voilà. De ce côté-là, il n'y a pas de souci.
Est-ce que vous vous rappelez qu'avec la BIAC, la Banque Centrale avait aussi annoncé un repreneur chinois qui ne s'est jamais manifesté, hein? Ce qui fait qu'à un moment donné, les actionnaires s'étaient sentis, n'est-ce pas, abandonnés. Ils avaient pris la décision de façon unilatérale de dissoudre, de dissoudre cette banque.
Non, elle n'est pas encore dissoute. Donc, BIAC est toujours sous administration provisoire. Mais ça veut dire que la difficulté de BIAC, c'est qu'elle n'a pas encore trouvé de repreneur. Mais ici, je répète encore, il y a un repreneur qui ne s'est pas défilé, il y a un repreneur qui a acté la reprise, qui a récupéré Fibank. Donc c'est ça la garantie, c'est ça justement la garantie de la préservation de l'épargne congolais. Et c'est une excellente nouvelle, parce que les crises peuvent mal se finir, mais celle-ci se termine de manière quand même assez heureuse.
Et jusque là, théorique, de façon théorique, hein?
Non, pas de façon théorique,
dans les faits, on ne sait pas ce qui va se passer, hein?
Non, ça veut dire que, dans les faits, ça veut dire que si tu avais un compte à Freeland Bank et que sur ce compte là-bas tu avais 5 000 ou 3 000 dollars, tes 5 000, tes 3 000 dollars, tu peux le retirer à Freeland First Bank sans beaucoup de difficultés. C'est ça le problème.
Reste à savoir si ça va se passer ainsi.
D'accord. Je te rejoins en tant que journaliste. Ça veut dire être un peu sceptique, voir un peu comment ça va se passer dans les semaines, dans les 2-3 semaines. Mais en principe, sur le plan théorique, sur la façon dont l'opération a été menée, il devait pas se ça ne devait poser aucun problème parce que le repreneur est là et le repreneur est viable.
Et à votre avis, quelles sont les solutions, n'est-ce pas, adéquates pour sauver et crédibiliser le système bancaire congolais?
Non, on va pas inventer la roue. On va voir c'est qu'appliquent les banques occidentales. Ils font des tests pour voir s'ils sont solvables par rapport à leurs difficultés, par rapport à leur économie.
Il ne faudrait pas repenser la gestion de la Banque centrale comme l'a relevé
ça veut dire qu'ici il y a plusieurs dossiers. Moi, je ne veux pas mêler les dossiers. Le déficit structurel de la Banque centrale, c'est un autre dossier qu'il faudra résoudre absolument. Mais ce qui est d'abord important ici, c'est faire en sorte que les lois prudentielles, les lois sur les banques soient respectées. Et aujourd'hui, on a vu que la banque fait des efforts pour justement rehausser le capital minimum, tout ça. Il faut encourager d'abord que les lois que nous avons, que nous les appliquions d'abord bien. C'est-à-dire que la RDC d'abord a un problème d'application de ses propres lois. Si la loi sur la réglementation est bien appliquée, si les inspecteurs de la Banque centrale sont bien outillés, sont formés, font leur travail avec abnégation, font des rapports bien, il n'y aura pas de souci. C'est d'abord appliquer la loi et bien sûr que la question du déficit structurel de la Banque centrale est une question préoccupante.
Merci. Monsieur Jean-Louis Kayembe, avant d'arriver aux solutions, cette banque, Fibank, employait environ 113 agents. Qu'en est-il du sort de ces agents? Est-ce qu'ils seront remerciés ou Afriland va leur accorder de nouveaux contrats?
Oui, tout à fait. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas seulement préservation de dépôts de la clientèle, mais aussi préservation, dans une certaine mesure, de l'emploi.
Dans une certaine mesure, c'est qu'on ne va pas reprendre tout le monde.
Non, parce que les nouvelles acquéreurs, c'est-à-dire la Freeland, a pris l'option donc de reprendre les personnels utiles de cette banque. Mais globalement, l'ordre de grandeur, nous pensons dans les négociations, nous avons obtenu que cette banque puisse reprendre en tout cas les maximums de personnel utiles pour le bon fonctionnement de pour l'exploitation, la continuité de l'exploitation de cette activité.
Monsieur Jean-Louis Kayembe,
de la banque qui a été cédée.
Et votre conclusion, nous sommes à la fin de l'émission.
Un élément, c'est que notre ami, donc, il s'approche des techniciens s'il a des difficultés pour comprendre concrètement, comment les choses vont se passer? Comment cette reprise va se passer? C'est que je dis ici qu'on prend les dépôts sains. Par exemple, dans l'ensemble, je ne peux pas donner les chiffres exacts. Je prends le cas de. Les dépôts sont de l'ordre de 5 millions, par exemple.
Malheureusement, on n'a pas assez de temps pour évoquer tout ça. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Papi Maotela, votre conclusion?
Je vais dire, pour moi, je suis en train d'appeler à la restriction de la Banque centrale. Je pense que si la Banque centrale est restructurée, je pense qu'on va avoir un système financier qui est sain. Et une solution qui est importante, je le dis au départ, on ne peut pas constituer un système financier sans état civil.
Merci. Israël Moutala, votre conclusion.
Mais ici, il n'y a pas de rapport entre le déficit structurel de la Banque centrale et les règles prudentielles et la supervision. Donc ici, quand même, je me réjouis du dénouement heureux de cette crise de la FIBank. Je pense que quand la Banque centrale fait de bonnes choses, il faut les souligner. Quand elle est blâmable, il faut le faire. Mais il faut la blâmer. Mais ici, je pense qu'elle a résolu cette crise d'une bonne façon. Et je me réjouis parce que il s'agit de l'épargne de Congolais, il s'agit de quelques emplois, il s'agit surtout de notre système financier qu'il faut consolider.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci et bonne suite du programme sur Radio Capi.